J'ai dit juste l'inverse. Bon, je vais reprendre. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, je voudrais d'abord. C'est Gemour d'Hachem. C'est un livre que le Maharal a écrit pour parler de tous les événements de la sortie d'Égypte. Gemour d'Hachem, ça veut dire les vaillances de Dieu. C'est intraduisible, moi. Et c'est, je crois que j'en ai parlé hier soir. Je ne sais pas si vous étiez là. Peut-être que je pourrais avoir un verre de thé ou quelque chose. Il s'en occupe, ils sont. Pour revenir sur cette question assez brièvement, mais d'abord je voudrais en signaler une ou deux autres. En particulier, hier matin, quelqu'un avait objecté sur la formulation du Maharal concernant la thèse de Nachmanide, puisque l'explication du Maharal de la thèse de Nachmanide était que Nachmanide avait dit que l'exil était la punition de la faute d'Abraham d'avoir mis en danger Sarah. Vous rappelez de cela? Est-ce que cette personne est ici ce matin? Non? Je vais quand même reprendre le problème, même si cette personne n'est pas là. En fait, je vais vous lire la citation de Nachmanide lui-même, parce que l'objection était que la formule employée par le Maharal, vous l'avez dans votre texte, c'est que Abraham avait exposé Sarah à un Nisayon Gadol, une grande épreuve, vous rappelez de cela? Et qu'une épreuve, c'est pas forcément une faute. Alors je vais vous lire le texte de Nachmanide pour préciser ce point très rapidement. À propos son commentaire est sur le verset 10 du chapitre 12 de la Genèse. Veda et sache. Qui Abraham avinu, qu'Abraham notre père, hata het gadol, a fauté une grande faute, bishgaga, non intentionnellement. C'est-à-dire que c'était pas intentionnel. La faute intentionnelle se dit bemezid. La faute non intentionnelle se dit bishgaga. C'est-à-dire il s'est exposé par imprudence, mais het gadol a une grande faute. Donc ça nous renvoie toute la dialectique de détails d'hier matin, qu'au niveau du patriarche, cela peut être une vertu, mais qu'il peut se dévoiler dans sa descendance, que cette imprudence à se conduire d'après, dans l'ordre de cette vertu, mais de façon non claire, non élucidée, non intentionnelle, peut devenir une faute. On peut rattacher cela à ce point de l'analyse. Je continue la lecture du Nachmanide. Chevi ishto tzadeket, puisqu'il a fait venir sa femme, qui était juste tzadeket, c'est le féminin de tzadik, vertueuse, disons, bemirchol avon, dans le piège d'une faute, mipene parado, à cause de la crainte qu'il avait, pen yargu, de peur qu'on ne le tue. Et vous rappelez donc de l'analyse de ce problème. En quoi consistait cette vertu? C'est le fait de la part d'Abraham de dévoiler cette dialectique de la promotion de la moralité dans l'ordre des rapports entre l'homme et autrui. Nous avions dans d'autres études, mais je le rappelle très brièvement, étudié ce point. Dans l'ordre des rapports entre l'homme et autrui, Ben Adam, la Havero, la première relation est entre l'homme et la femme. Et c'est le test, si vous voulez, de la promotion de moralité dans l'identité humaine qui est en question dans ce récit. Je pense que cela a été suffisamment clair et que le premier niveau de l'amour est le niveau mari-femme et pour qu'il atteigne sa plénitude, il faut qu'il soit complété par un deuxième niveau qui est celui de frère et sœur. C'est très frappant, si vous et que, alors qu'il s'agit là d'un thème très familier à la tradition hébraïque de la Bible, qu'à travers le temps, ce thème est complètement disparu de l'évidence de la lecture de ces récits. Simplement, je vais essayer de restituer des niveaux d'invraisemblance, en particulier l'argument du Maharal, qui consiste à dire, si nous expliquons comme Maïmonide, qu'il s'agissait là, comme Nachmanide, pardon, qu'il s'agissait là d'une faute de camoufler sa femme en sa sœur pour ne pas qu'il soit maltraité parce qu'on voulait prendre cette femme pour le pharaon, alors qu'il s'agisse d'Abraham, que, selon Nachmanide toujours, la sanction d'une telle faute aura été que la descendance d'Abraham connaisse dans les mêmes formes l'exil d'Égypte. Et dans la suite du texte de Nachmanide, on voit tout le détail de cette correspondance. De la même manière, les Égyptiens vont prendre les filles d'Israël et tuer les garçons. Vous vous rappelez de cela dans le début de l'Exode. De la même manière, les Égyptiens seront frappés de grandes plaies, comme le pharaon du temps d'Abraham a été frappé de grandes plaies. Et de la même manière, quand en fin de compte, les Hébreux sortiront de l'Égypte, ils sortiront avec de grandes richesses, et nous verrons de quoi il s'agit tout à l'heure, ou demain, ou après-demain, par rapport à ces richesses. Et tout se passe comme si Nachmanide semblerait nous indiquer que cet exil d'Égypte, c'est la même chose qu'Abraham venant en Égypte dire que sa femme est sa sœur. C'est arrivé à sa descendance. Ce que le Maharal critique, c'est l'explication de type péché originel, que ça arrive à la descendance en punition de ce que les ancêtres auraient fait. Ça va jusque-là. Alors je reviens sur la question de détail maintenant. Pas de détail, mais de précision. Et ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord cette catégorie, très familière aussi à la tradition hébraïque, pnim et chutz, les choses du dedans et les choses du dehors. Par rapport à la sainteté, c'est parallèle à la notion de la sainteté dévoilée chez elle, dans la maison, dans le dedans, et la sainteté cachée dehors. C'est parallèle aussi à la notion de pureté, la notion d'impureté. L'impureté va du dedans au dehors, alors que la sainteté va du dehors au dedans. Et ceci était l'enseignement du Hafetz Chaim, vous vous rappelez, pour expliquer que de même qu'il y a une sainteté intérieure, celle du Beit HaMikdash, celle qui se dévoile chez elle, il y a une sainteté cachée à l'extérieur, de même, il y a un amour qui est celui de l'époux et de l'épouse, qui est l'amour de la maison dans la maison. Et il y a un amour de l'extérieur, chutz, dehors, qui est l'amour entre le frère et la sœur. Je ne crois pas qu'on puisse expliquer plus avec des mots. Simplement, ce que j'essaye, c'est d'indiquer une intention, une direction d'expérience. Ceux qui expérimentent déjà cela comprennent mieux de quoi il s'agit dans ce récit. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors, ce n'était pas du tout une espèce de tricherie, de ruse, d'hypocrisie de la part du patriarche de dire de sa femme qu'elle est sa sœur pour se préserver. C'est tout autre chose. C'est la promotion d'une vertu. Et dans la mesure où cela met en danger, parce que c'était imprudemment provoqué, cela peut devenir une faute dans la descendance. Mais au niveau du patriarche, c'est une vertu absolue. Et le Maharal va se baser sur cette remarque pour rejeter ce type d'explication de l'exil dans la catégorie sanction d'une faute originelle, d'un péché originel. Est-ce que c'est suffisamment clair sur ce point ? Avancer. Bien, alors je vous propose de. Avant cela, quand même, je voudrais revenir pour ceux qui étaient là hier soir sur une remarque. Vous avez remarqué qu'on m'a posé une question hier soir. Pas la question elle-même qui se pose mille fois, mais l'atmosphère à partir de laquelle la question a été posée, que le Maharal avait un peu trop rapidement rejeté cette thèse si classique de l'exil comme punition des fautes. Vous vous rappelez de cela ? Et j'ai l'impression que la question a été posée par un juif pieux. C'est le cas. Bon, ça ne m'étonne pas. Vous savez, il y a des...
C'était pas le cas.
Ah, c'était pas un juif pieux.
C'est étonnant, mais c'était pas le cas.
Ça doit être un juif pieux caché. Enfin, ça aurait pu. C'est ce que je veux dire. Ou quelqu'un, enfin, qui citait la thèse classique chez les juifs pieux, comment nous leur enlevons le mérite d'une convalescence retardée. Je sais pas comment dire ça. Okay. Vous rappelez qu'une fois, parce qu'ils tiennent à cela, que l'exil, c'est une punition, bienheureuse punition de fautes que nous n'avons pas faites. Vous comprenez, il faut des justifications, il faut des alibis. Alors, les alibis de la piété, parfois, sont les plus dangereux, parce que ça renvoie au mythe du péché originel. Je pense que c'est clair. Et j'avais signalé à quel point le maniement de ce genre de thèse est très dangereux. Parce que, grâce à Dieu, ça commence un peu à se purifier, à s'épurer, mais ça a été pendant des siècles la base même de l'antisémitisme chrétien, de l'antijudaïsme chrétien, disons, qui était basé sur la notion d'une culpabilité du peuple juif, puni par l'exil, par la dispersion comme malédiction, et c'est une culpabilité grave, et tellement grave que elle évacuait l'invraisemblance de la gravité de la persécution. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais vous avez compris l'idée. Je vais vous rappeler cette image à laquelle je tiens beaucoup, que j'utilise souvent dans ce problème, c'est que ce thème, que tout se passe comme si le peuple d'Israël avait fauté, on ne sait pas de quelle faute, et alors la punition aura été l'exil. Et comme lorsque quelqu'un est malade, on l'envoie à l'hôpital avec une ordonnance et des médicaments à prendre. Un jour, le médecin a envoyé un message et le médecin dit « D'après moi, tu es guéri, reviens chez toi. » Et le malade répond « Je ne suis pas guéri, j'ai encore des médicaments à prendre. » Oui, c'est à ça que ça ressemble. Okay. J'ai encore dans la valise des ordonnances. En hébreu, ça se dit des mitzvot. Okay. Et alors, jette tes ordonnances et reviens chez toi. Non. Je paye une faute mystérieuse que je ne sais pas qui a fait, mais mon exil est la punition de mes fautes. Alors, vous en êtes compte. C'est clair. Pardon ? Je crois parce qu'ils ont été imprégnés par la piété ambiante du christianisme. Et qu'il y a une espèce de tendance de piété naturelle, de croire que c'est comme ça que ça marche. Et j'ai toujours frappé par cela. C'est que les juifs pieux des pays d'islam n'ont jamais eu cette tendance-là. Les juifs pieux des pays de chrétienté ont été peut-être imprégnés par cela.
Ce que vous disiez hier concernant le revirement des chrétiens, c'est qu'au fond, au péché originel, il n'y croit plus, enfin, si on peut dire, du moins, si leur subconscient y croit encore, il le souligne de moins en moins et ça les gêne. Et c'est assez parallèle au mouvement qui vient sur le judaïsme, du christianisme actuel. Un détail qui est révélateur, car Charles Jolin vient de faire paraître son livre sur la symbolique des noms de Dieu. J'en ai lu une critique, je l'ai demandé dans des quatre des plus grandes librairies de Paris, y compris la FNAC. C'est déjà parti, il n'y en a plus. C'est un livre sans doute difficile et ardu.
C'est un signe. Je précise que Charles Jolin est mort, mais on a édité ce livre. Lui est mort il y a quelque temps. Oui, je comprends ce que vous dites. En d'autres termes, vous l'avez dit d'ailleurs une fois, c'est assez parallèle au fait que l'évacuation de l'antijudaïsme chrétien, c'est tout simplement le signe d'une déchristianisation des chrétiens. Ça va un peu dans le même sens. Alors on ne sait pas s'il faut s'en réjouir ou au contraire le déplorer. C'est assez ambigu, les deux, probablement. Oui, madame.
Je voulais savoir si ce que vous avez dit s'applique au niveau individuel aussi, ou est-ce seulement valable au niveau c'est-à-dire quand j'ai entendu dire quand il y a des enfants qui naissent malades, que c'est pour réparer une faute.
Oulala. Écoutez, je n'osais pas toucher ce domaine-là, parce qu'il faudrait trop d'introduction, de préparation, de vocabulaire et de thèmes différents pour arriver à s'en approcher d'après les catégories de la tradition juive. Mais restons, si vous voulez, au niveau de notre sujet. Je pense que jeudi soir, nous aurons une mise au point très profonde avec des tenants de différentes thèses à ce sujet. par conséquent, et en particulier, je pense que nous aurons un dialogue assez vif entre les deux barbus, là. Et pour revenir à notre sujet, je pense qu'il faut tout simplement prendre garde à cela. Nous sommes la première génération désorientée par l'événement de l'existence de la nation hébraïque en Israël. Et nous avons oublié ce que ça pouvait signifier 2000 ans d'un exil sans l'existence de la métropole Israël. Et nous sommes tellement habitués à l'idée que la manière normale d'être juif, c'était d'être dispersé, que nous n'arrivons plus à percevoir le contraste entre ces deux événements. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Et la conscience juive, en particulier celle des milieux fidèles à une forme de piété qui a été celle de l'exil pendant 2000 ans, est complètement désorientée devant le phénomène. Il y a une sorte de loi d'inertie qui joue. On s'est habitué à l'idée que la manière naturelle d'être juif, c'était d'être un peuple dispersé, indexé sur des cités nationales étrangères. Ça a duré si longtemps qu'on a cru que c'était la normalité juive. Mais c'est, encore une fois, c'est une imprégnation du regard d'autrui. Et ce qui fait qu'on ne sait plus expliquer l'événement contemporain de l'apparition, de la possibilité du retour, et en tout cas de la société israélienne comme telle. Et alors, sur ce point, je voudrais tout simplement rappeler un enseignement de la Bible qui est très important. Je vous demande de vous y référer par vous-même les chapitres 10 et 11 de la Genèse, où la Torah nous raconte l'origine de la diaspora humaine jusqu'à la civilisation de Babel. Je vais vous citer d'ailleurs le verset principal, nous allons revenir à cette analyse, parce que je ne me souviens plus si c'est 11 ou 10, je vais dire tout de suite. Oui, c'est le premier verset du chapitre 11 de la Genèse. Le verset dit ceci. Vayehi kol haaretz safa achat udvarim ahadim. Ce qui signifie toute la terre parlait une langue unique et des dialectes particuliers. Ça veut dire l'humanité était une. Il y avait une langue unique de l'universel humain. C'était pas une uniformité, parce que chaque peuple avait son dialecte particulier, mais l'humanité parlait la même langue quand même. Étant donné la définition biblique de l'identité humaine, qu'il s'agit de l'être vivant doué de parole, Hayam Daber, dire que l'humanité parlait une langue unique, c'est dire le plus concrètement possible que l'universel humain existait concrètement. Or, il y a eu révolte contre le Dieu unique, contre le principe de l'unité, et la langue unique a disparu. Elle n'a pas disparu complètement. Elle s'est occultée dans une lignée de l'humanité, qui est la lignée sémitique par la branche hébraïque. C'est le secret de la Bible. Et il n'est resté que les dialectes particuliers. C'est la raison pour laquelle on parlera de la confusion des langues. C'est pas que de façon magique, les hommes se sont mis à parler des langues différentes. C'est qu'ils parlaient à la fois leur propre langue différente et une langue unique. Lorsque la langue unique a disparu, il n'est resté que les langues différentes. Est-ce que cette remarque est bien comprise? Ça signifie que l'universel humain a disparu, s'est caché, occulté. Il en est résulté la diaspora humaine, qui est la diaspora des nations. Et à ce moment du récit, vous verrez, il n'y a pas d'Israël dans l'histoire. Et donc, l'erreur vient de là. La diaspora, c'est la diaspora des Goïm. La dispersion, la manière naturelle d'être en diaspora, c'est pas Israël, c'est les nations. Dans la cohérence du récit, Dieu suscite un peuple particulier, Israël, à partir d'Abraham, qui a pour fonction messianique de recréer l'universel humain. Et donc Israël est une nation qui est à part du reste de l'humanité, dans le reste de l'humanité. C'est la nation universelle dont la manière anormale d'être est d'être en diaspora, parce que c'est le moment de son histoire où elle est greffée sur la diaspora des Goïm. Mais la manière naturelle d'être homme, diaspora, c'est celle des Goïm, pas d'Israël. Et donc les Juifs ont été pris dans ce piège de quelque chose d'anormal qui a duré si longtemps qu'on a fini par leur faire croire, ils l'ont cru par eux-mêmes, que c'était leur manière normale d'exister, alors qu'un juif traditionnel a toujours considéré que d'être en exil, c'était éminemment anormal, parce qu'être en exil, c'est le sort des goïms, pas d'Israël. Vous comprenez la différence? Est-ce que c'est bien clair? Et alors, dans la mesure où on a été pris par cette inertie de l'expérience de l'exil, que la fidélité à l'identité juive, c'était de rester fidèle aux coordonnées de l'identité juive en exil, le moment venu où l'espérance de la normalité est arrivée, on a inversé les données. On a cru les Israéliens comme anormaux et les Juifs comme normaux. Mais sachez que le seul témoignage d'un Israélien, c'est l'inverse. C'est un Israélien qui est normal et un Juif est anormal. Comme, ça y est, c'est clair ce que j'ai dit là. Et comme je suis les deux, je peux le dire tranquillement. Je veux dire, la première partie de ma vie, j'ai fini d'être anormal comme Juif. La deuxième partie de ma vie, je recommence à être normal comme Hébreu. Et alors, lorsque je rencontre des Juifs, c'est-à-dire ma préhistoire, c'est un dialogue de fou, une histoire de fou. J'ai compris le problème. Et alors là, ben d'où ça vient, surtout chez les Juifs pieux. Il nous reste le problème de Madame tout à l'heure, la différence entre Kinyan Nefesh et Kinyan Etzem. Si vous voulez, on va le laisser pour après là. La Saka, pour pouvoir revenir d'abord dans le sujet. Il n'y a pas d'autres questions sur le sujet.
Est-ce que vous considérez ce qu'a dit M. Tchegueral comme une prise de position personnelle ou un retirement de la chrétienté, un commencement de
votre... Je crois que c'est une position personnelle. Oui. Je n'ai pas lu le texte exact. Je n'ai lu que des réactions de compte-rendu qu'il y a eu dans des journaux israéliens. Mais je crois que c'est là quand même la première fois que ces choses ont été dites avec sincérité, entièreté et courage, et pas, je ne sais pas comment dire, cette retenue ecclésiastique caractéristique. Et je crois que c'est personnel, connaissant un peu l'entourage et l'histoire de l'archevêque de Marseille. Je ne pense pas du tout que la chrétienté ne fera jamais un revirement. Je ne crois pas. Émile Ken. Oui, bien sûr, ce sont des étapes. Je ne sais pas comment dire. Lorsqu'on redevient normal, la première étape, c'est de redevenir normal. La deuxième étape, c'est de devenir plus que normal. Ça, c'est la deuxième étape. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et il y a un premier processus de normalité. Et ensuite, il y a un processus d'authenticité. Mais on ne peut pas être authentique dans l'anormalité. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est clair. Et je vous donnais peut-être une image. Les juifs pieux de la diaspora, et je marque quelque chose, je ne peux pas l'oublier, nous disent, vous avez une maison qui n'a pas de mezouza. Vous savez que c'est la maison et la mezouza. Okay? Alors les juifs pieux de la diaspora disent aux Israéliens, votre maison n'a pas de mezouza. Admettons. Alors ils nous disent, nous restons chez les goïms, pour préparer la mezouza. Bon. Pendant ce temps, nous construisons la maison. Un jour, ils vont arriver avec la mezouza. Eh bien, ils trouveront que la maison a une mezouza, qu'on n'a pas besoin de leur mezouza. Vous avez compris le problème. C'est une histoire.
Tu vas
pas
faire tout ce
voilà. Voilà, voilà. Et vous savez, on dit en hébreu, Hachmer, Leuznera, Machatamotzi, Mepira. Ces juifs-là devraient entendre ce qu'ils disent avec leur bouche. Est-ce qu'on avait besoin d'un voyage pareil pour une mezouza? C'est donc que ce voyage avait une autre raison. Je crois que je l'ai dit hier soir, mais on reprendra tout à l'heure jeudi soir à la clôture. C'est que le peuple juif a été envoyé en voyage parce qu'il n'était pas sûr d'être chez lui en Israël. Ne reviendront que ceux qui deviendront sûrs qui ne sont pas chez eux ailleurs. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et nous allons le voir dans le Maharal à la loupe. Ben. Voilà, si vous avez une autre question. Voilà, eh bien, c'est ça, très bien. Je crois qu'il y a eu des périodes de cohérence de l'exil. Mais de notre temps, l'incohérence se dévoile. Par exemple, quand je pense à mon grand-père, eh bien, c'était un juif de l'exil qui ne pouvait pas retourner en Israël parce qu'il n'y avait pas d'Israël. Bon. Et alors, je me vois enfant chez mon grand-père. C'était une identité juive cohérente, mais qui était basée sur la première, l'intuition première que ça devait être provisoire. C'est un provisoire qui avait duré des siècles. Bon. Et dans ma mémoire, je me sens très à l'aise dans le monde juif de mon grand-père. Et puis maintenant, aujourd'hui, je vis dans le monde juif de mon petit-fils, qui est né en Israël. Et je me sens à l'aise dans le monde juif de mon petit-fils. Je suis privilégié, je me sens à l'aise dans les deux. Mais il y a une asymétrie. C'est que le monde juif de mon grand-père, mon petit-fils ne le connaîtra plus jamais. Il s'en ira avec ma mémoire. Alors que mon grand-père rêvait au monde juif de mon petit-fils. C'est asymétrique. Vous comprenez ? Ça, c'est le fond du problème. C'est rien. Oui. Et c'était pour nous garantir nos droits. Ça ne servit à rien de ce point de vue-là, mais enfin, c'était quand même une tentative. Et alors, étant donné que l'événement est contemporain, il y a un décalage entre le rythme de la mutation à l'échelle collective, qui est irréversible, et le rythme de la mutation à l'échelle individuelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il est normal que l'individu n'arrive pas à réagir au même rythme psychologique que la collectivité. Il y a une date irréversible, c'est 5708 du calendrier hébraïque, 1948 du calendrier français. C'est irréversible, l'exil a fini. Et il y a, je vais citer, mais je ne sais plus en quelle année, je ne sais même pas s'il l'a cité ici. Un midrash que j'ai étudié d'ailleurs avec M. Gordin. Et c'est ceci. Lorsque Dieu se révèle à Moïse pour lui demander d'aller en Égypte, délivrer Israël, Moïse répond, et ils ne vont pas avoir foi en moi. Vous vous rappelez de ce verset? Alors Dieu lui dit, lui donne un signe par lequel il se fera reconnaître des Hébreux. Parce qu'il y avait une tradition que le libérateur, le Moshiach, pas le Mashiach, le Messie, le Moshiach Abichain, le libérateur, devra être capable de transformer l'impur en pur et le pur en impur. Et le signe qui lui est donné, c'est que Dieu lui demande de mettre la main sur sa poitrine, il la ressort blanche de lèpre, ensuite il la remet sur sa poitrine, il la ressort pure, purifiée. C'est-à-dire, il dit voilà le signe que tu leur montreras, que tu es capable de transformer l'impur en pur et le pur en impur. Il y a un mystère de la Torah qui concerne notre histoire. Et alors, le Midrash pose la question suivante. Pourquoi ce signe que Moïse a reçu l'a atteint dans sa chair? Et nous savons que la lèpre punit la calomnie. Et le Midrash explique, parce qu'il a calomnié Israël en disant, ils ne vont pas avoir foi en moi. Et Dieu lui répond dans le Midrash, comment? Ils sont ma'aminim, bne ma'aminim, des croyants, fils de croyants, et tu dis, ils ne vont pas croire. Et vous savez très bien que les juifs croient n'importe quoi. Dès qu'il y a quelque chose à croire, les voilà, ils y croient. Tous les ismes de la terre, jusqu'à l'isthme de Suez. Vous avez compris que dès qu'on a ouvert la frontière, ils sont allés faire du tourisme en Égypte, alors qu'aucun Égyptien n'est venu faire du tourisme en Israël. Bon, je referme la parenthèse. Et en fait, Moïse a eu raison, puisque lorsqu'il est venu en Égypte dire aux Hébreux, c'est le temps, les Juifs pieux des Hébreux, si j'ose dire, lui ont dit, non, on n'a pas fini la valise des médicaments. Okay. Donc, il avait raison de dire, ils ne vont pas me croire. En réalité, Dieu lui explique dans sa réponse dans le Midrash pourquoi ils ne vont pas croire. Pas parce qu'ils ne sont pas croyants, parce qu'ils seront pris dans le risque d'une erreur de la fidélité. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. Ils sont croyants, fils de croyants. Ça veut dire, et c'est là leur erreur, ils croient en leur temps comme il fallait croire au temps de leur père. Vous avez compris en hébreu que ça veut dire Ma'aminim, bne ma'aminim. Ils sont croyants, fils de croyants. Ça veut dire qu'il y a une erreur de la fidélité. La véritable fidélité, ce n'est pas la fidélité aux étapes anciennes, c'est la fidélité à l'avenir du projet. Je veux dire, je pense que c'est clair, ça veut dire être fidèle à l'identité juive, c'est être fidèle à l'espérance juive, et non pas à l'étape intermédiaire de l'attente. Et donc, les Hébreux du temps de Moïse ont été infidèles par erreur de fidélité, pas par infidélité. C'est le cas des juifs purs aujourd'hui. C'est-à-dire ils réagissent comme il fallait réagir encore avant 48. Il fallait être fidèle à cette situation de marane que nous avions, à cette situation anormale, provisoire, pour pouvoir tenir le coup. Mais cette situation de fidélité-là n'était authentique dans la perspective d'une fidélité au-delà, la fidélité de l'accomplissement. Imaginez un marane qui, pour pouvoir rester juif camouflé, s'est camouflé. Au moment où il peut être juif sans être camouflé, l'habitude de sa fidélité consiste à lui dire, être juif, et il y en a comme ça, être juif authentique, c'est rester marane. Alors qu'on a été marane, qu'on lui de ne plus l'être, je pense que c'est clair. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire une inertie de 2000 ans qui est énorme et qui fait chercher des alibis à des choses injustifiables.
Cette référence à l'avenir, c'est ça que Dieu veut indiquer à Moïse quand il dit la preuve, c'est que vous adorerez sur cette montagne, tout de suite après.
Vous savez, là, il y a un point extrêmement important. Parce que Dieu dit à Moïse juste après, « Vezelecha haot asher anochi shelachticha beotziacha et ha'am mimitzraim ta'avdu et ha'elokim ba'arazi. » Or, Moïse avait demandé un signe pour l'aider à faire sortir les Hébreux. Lorsque Moïse dit « Ils ne vont pas me croire », Dieu lui dit « Voilà, et voilà pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé les faire sortir d'Égypte. Quand tu les feras sortir d'Égypte, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. » Regardez la difficulté. Moïse a besoin d'un signe pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. Et Dieu lui répond, voilà ton signe. Quand tu les feras sortir d'Égypte, amène-les sur la montagne. Vous avez compris la contradiction. Okay. Ça veut dire qu'il a fallu mener Israël au Sinaï pour que Dieu se révèle et confirme Moïse, si Moïse avait des difficultés avec Israël. Sinon, c'est directement qu'il serait rentré à Jérusalem. Vous avez compris le problème. Ça veut dire que le Sinaï n'était pas prévu, a priori, dans le programme. Dieu dit à Moïse, si tu as des difficultés avec ce peuple, amène-les ici. Mais tu n'amèneras que ce que tu arriveras à arracher. Vous avez compris le problème. Les autres sont restés en Égypte. Ceux qui ont trop cru, ils ont resté dans le paysage égyptien. Et nous ne pouvons pas savoir qui des Égyptiens contemporains est ou n'est pas les descendants des Hébreux de ce temps-là. Vous voyez ? En plus, ils nous fabriquent des problèmes. Émile, tu me dis.
J'adhère absolument à l'étude, mais le problème, oui. Il y a ici un problème de cohérence dans le Midrash lui-même. Akadosh Baruch Hu a l'air de justifier les Hébreux, puisqu'il il frappe Moïse dans sa chair à cause de l'accusation de Moïse. Mamini, ben Mamini, c'est négatif dans ta lecture. Alors que.
Non, c'est explicatif. Mamini, ben Mamini, ma ben Mamini, grande louange.
C'est le vif de la Emouna.
Mais, ah oui, c'est une.
Le vif de la Emouna. Oui. Pourquoi est-ce qu'il aurait tout dit ?
Et parce qu'il a dit Vehem Loya Minoubi. Et Birchal, il aurait dû dire ils ne vont pas croire en ce que tu as dit. Il n'avait pas à dire, ils ne vont pas croire en moi. Il ne s'agissait pas qu'ils croient en lui. Birchal, il y avait un autre. Oui. Ça, dans tous les cas. Mais c'est le fait que il y a toujours eu, par rapport à l'expérience messianique, une problématique extrêmement grave. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'intelligentsia israélienne, elle-même, pratiquant ou non pratiquant, est divisée à ce sujet. Vous allez entendre ça jeudi soir, je suppose. C'est que l'idée, par exemple pour Scholem, l'idée que le sionisme, c'est-à-dire le retour des juifs en Israël, c'est le commencement de l'accomplissement du messianisme, ça les affole. Ça veut dire que c'est si sérieux que ça. Ça les affole. Vous savez cela. Et alors nous avons une problématique, par exemple celle de Eshayahu Leibovitch, qui consiste à dire le véritable messianisme juif, c'est d'attendre un messie qui ne vient pas. Parce que la vertu, c'est d'attendre. Et s'il arrive, on n'a plus cette vertu d'attendre. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point un juif peut devenir malade au bout de 2000 ans d'anormalité. Je pense que c'est clair. Et vous avez des chaires de philosophie juive où on vous enseigne ça sérieusement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais la dernière question. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'expression peut paraître enfantine, le Dieu de la Bible, c'est le bon Dieu. Allez, faut avoir confiance. Voilà. On revient au groupe. on revient à notre question. Et voilà donc, en tout cas, ce que je voulais signaler, Ken. Oui.
Si par hasard, l'accomplissement de mitzvot dans l'académie empêche un retour rapide en Israël, quel est le plus important à considérer ?
Je vais vous dire, c'est difficile de donner des règles globales. Chaque cas est un cas particulier. Il peut y avoir des cas pour tel ou tel individu. La préparation de la Aliya demande un peu plus de temps, de désintoxication de l'ancien passé, de telle sorte d'arriver plus à l'aise. Par exemple, problème analogue, il vaut mieux arriver avec un peu plus de diplôme qu'avec moins de diplôme. Il vaut mieux arriver avec un peu plus d'identité juive qu'avec moins d'identité juive. Chaque cas est un cas particulier. Le problème de la règle générale est très mystérieux. C'est un problème de rendez-vous. Chacun doit savoir quel moment du rendez-vous il ne doit pas rater. Parce que s'il rate le rendez-vous, c'est fini. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. Et puis, à l'échelle collective, nous n'avons pas tous les facteurs entre nos mains. Je dis souvent que la grande inconnue pour la messianité juive sioniste, c'est la politique russe. Ça veut dire, est-ce que les Russes nous laisseront le temps d'attendre ? Imaginez que je fais du futurisme, donc n'y a pas de cauchemar, c'est des éventualités théoriques. Imaginez que les Russes décident d'avancer un pion, non pas en Afghanistan en direction des mers du Sud, non pas en Syrie en direction d'Angola, de l'Afrique, mais en direction de Quimper, l'Europe occidentale. Il n'y a plus de judaïsme occidental en 48 heures. Et alors l'idée que peut-être le salut pour les juifs de l'exil, c'est d'aller en Israël, deviendrait une idée impossible, ce qui se passe pour les juifs de Russie, par exemple. Alors, bien sûr que accumuler des mitzvot dans la Gola, ça peut peut-être faire du bien. Ça dépend des Russes. Est-ce qu'ils vous laisseront le temps ? C'est tout ce que je voulais dire. Ça y est, on revient. D'accord, on revient au sujet. Vous comprenez, dans tous les cas, l'essentiel, c'est de savoir que chacun doit décider pour lui-même. Mais tout se passe comme si le peuple d'Israël a déjà décidé pour tout le monde et que c'est irréversible. La discussion se resserra évidemment avec ceux qui ont piété et érudition. Et là, nous avons un peu de travail. Mais je crois que c'est une discussion qui est déjà caduque, préhistorique et superfétatoire, abstraite et absurde. Parce que la réalité est toujours plus vraie une interprétation de livre. Je ne sais pas si j'ai clair. Dans le monde chrétien, on disait, je vous cite des preuves et vous me citez des moines. Une preuve, c'est plus fort qu'un moine. Bien. Alors, je reviens. Alors, nous allons prendre le texte du Maharal à la page 2. Nous allons commencer la lecture ici, en fin de paragraphe, en fin de colonne. J'ai un texte où c'est numéroté 1, 2, 3. Vous l'avez aussi ? Oui. Là, je vous ai sauté tout un morceau du texte pour aller un peu plus vite. On a un grand programme. Simplement, un argument que le Maharal a mis en forme par rapport à la thèse d'Abravanel. Vous vous rappelez la thèse d'Abravanel ? C'est la haine des frères de Joseph qui est la cause de l'exil. Puisque, effectivement, on pourrait s'y tromper. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a des allusions dans le Midrash qui vont dans ce sens-là. Mais on pourrait s'y tromper. L'exil d'Égypte a effectivement commencé par la descente de Joseph lui-même en exil. Ensuite, la Torah nous raconte la stratégie que Joseph emploie pour attirer toute la famille de Jacob en Égypte. Mais il est bien évident que la première partie de l'histoire d'Israël en Égypte n'était pas du tout une histoire d'exil. Tant que Jacob était vivant, c'était dans la gloire. Vous vous rappelez de cela ? Alors, Maharal explique de cette manière. Ce n'est pas la vente de Joseph par ses frères qui est la cause de l'exil, c'est l'inverse. Étant donné que Jacob a diagnostiqué le fait qu'il fallait que l'exil commence, alors il a envoyé Joseph se faire envoyer en Égypte par ses frères. C'est l'exil, c'est le fait que l'exil devait exister qui est la cause que les frères de Joseph ont envoyé Joseph. Vous suivez ? Nous allons le voir tout de suite dans un verset de la Bible. Je vous avais demandé d'ailleurs d'apporter, si vous pouvez, un livre de la Genèse. Alors prenez votre livre, ceux qui l'avaient, ceux qui l'ont, je vais vous donner le verset et la référence de Rush. Pas tout à fait. On y va. C'est minute. Que je trouve ça verser. Voilà, vous prenez le verset 14 du chapitre 37. Chapitre 37, verset 14. Après que Joseph ait raconté ses rêves à ses frères et à son père, et vous vous rappelez que nous avons vu hier matin que ses rêves indiquaient le rêve de la mission de diaspora. Vous vous rappelez de cela, okay? Être des étoiles dans la nuit, là où le blé pousse, vous vous rappelez. Bon. Alors, lorsque les frères sont en haine vis-à-vis de Joseph, nous l'avons vu aussi hier matin, pourquoi? Eux ont déjà l'expérience d'une telle tentative messianique de transfigurer l'humanité dans la civilisation extérieure. C'était la tentative de Jacob chez Laban. Eux l'ont vécu adulte, jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Ils savent que cette tentative mène à l'échec. Si vous voulez analyser l'histoire d'un exil, il n'y a qu'à analyser le modèle qui est l'exil de Jacob chez Laban. Jacob se met au service de Laban, il mène la bénédiction, et lorsque la bénédiction arrive, Laban commence à haïr Jacob. Et Jacob est obligé de s'enfuir. Ce modèle-là, il n'y a pas d'exception. Toutes les époques de diaspora ont la même structure, c'est cette histoire-là que nous vivons sempiternellement. Et Jacob, parce qu'il aime Rachel, parce que Rachel est aimable, se fait le serviteur de Laban, et Laban devient antisémite, et Jacob doit s'enfuir quand il en a le temps. Voilà, vous voyez à peu près grosso modo la structure. Je crois qu'il n'y a pas d'exception à ce modèle. Seulement, les Juifs, je crois qu'on avait dit ça des Français, mais les Juifs n'ont jamais appris aucune leçon de l'histoire. C'est vrai. Alors, on reprend le texte. Jacob, à ce moment-là, a diagnostiqué le fait que le moment était venu de commencer l'histoire de l'exil, de recommencer l'histoire de l'exil. Il avait cru, et ce sont les commentaires du début du chapitre, il avait cru que lui avait pris sur lui, avait réalisé quant à lui cette prophétie à Abraham, savoir tu sauras que ta descendance sera étrangère, et nous allons en étudier les causes, pourquoi cette prophétie à Abraham, pourquoi cette éventualité de l'exil dans la descendance d'Abraham. Jacob avait cru que son propre exil chez Laban avait épongé cela, comme nous disons en hébreu, isfog, ça se dit en français. Si je lorsqu'il revient de l'exil de chez Laban, c'est pourquoi cette paracha s'appelle Vayeshev, il s'installe, il croit que c'est fini, on a réalisé cette éventualité. Lorsqu'il voit la haine entre ses fils, il sait que il faut recommencer. Alors je vais vous lire le verset 14 du chapitre 37, et nous lirons immédiatement Rachel, et vous verrez comment ça se relie à notre sujet. J'attends deux minutes que...